agent Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Perché non sono cresciuto per giocare con voi eternamente.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes avec Bonheur sur les ondes de Radio Carnaval et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes à l'écoute de l'émission Stammtisch 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Avant d'accueillir nos invités du jour, nous remercions chaleureusement notre parrain de l'émission, l'entreprise Beauvais Électricité à Sainte-Croix. En ce samedi 8 février, nos premiers invités sont bien présents autour de la table. Mais avant de les accueillir formellement, pour info, vous retrouverez nos prochains invités le jeudi 13 et le jeudi 14 février, jour de la Saint-Valentin.
Ah,
effectivement, dès demain, dimanche, lundi, mardi et mercredi, la pièce radiophonique prendra place sur nos ondes de 19h à 20h. Et puis, nous serons en direct. Et puis, les animateurs, certains animateurs de la radio, auront le plaisir de vous offrir cette pièce. Alors, d'ores et déjà, on vous invite à nous rejoindre dès demain soir entre 19h et 20h. Je me tourne maintenant avec beaucoup de plaisir vers ma moitié radiophonique, celle qui est derrière la console, quasi celle d'un Airbus 380, qui assume la partie technique, en tout cas pour le moins une partie technique de notre émission. Elle est toujours aussi sympathique, souriante, agréable, et sa voix de velours... sur laquelle le temps n'a pas d'emprise, j'ai bien sûr nommé ma chère Sylvaine. Comment vas-tu, Sylvaine ?
Merci, sinon je te renvoie le compliment. Je veux dire que c'est un véritable plaisir chaque année d'être avec toi sur les ondes de Radio Carnaval, bien sûr, et surtout avec nos invités qui sont assez géniaux. Chaque fois, c'est des personnes qui nous amènent vraiment une vie, un parcours extraordinaire.
Eh bien, pour cette première émission de Stammtisch 2025, ce soir, Sylvaine, nous allons parler deux roues. D'un deux roues qui fleure bon la liberté, qui fleure bon l'évasion, qui appelle à la fois au souvenir de la fin des années 40, début des années 50. Un deux roues, qui appelle aux sorties romantiques, teintées d'un goût d'aventure, mêlées au doux parfum des filles, au bon vin et à la cuisine à la fois riche, délicate et empreinte d'un amour et d'une joie gustative qui n'est plus à prouver. Et tout ça sous le soleil radieux de l'Italie. Pour cette première émission Stammtisch, nous avons le bonheur ce soir de rendre hommage pour certains et de présenter pour d'autres une belle demoiselle, j'ai nommé la mythique Vespa. Et pour en parler, nous avons l'avantage de recevoir trois membres du Vespa Club de Lausanne qui fête cette année ses 20 ans, qui aura l'occasion, je crois au mois de juin, de souffler ses 20 bougies.
Absolument.
Nous avons donc autour de la table le président du Vespa Club de Lausanne. Bonsoir Daniel et bienvenue.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, pour qui sa passion n'a d'égal que ses compétences en termes de mécanique, presque le docteur S. Vespa. Giuseppe, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir tout le monde.
Et notre troisième invité est un membre actif au sein du club et aussi un ami de votre serviteur. Et bienvenue à toi Alexandre.
Merci, bonsoir à vous.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence, messieurs. Et première question qu'on vous posera dans cette émission, comment allez-vous en ce début d'année 2025, notamment avec les objectifs à tenir et les préparatifs qui sont certainement nombreux en vue de souffler les 20 bougies d'anniversaire du club. Alors, comme pour la Vespa, tout roule pour vous ?
Alors, ça roule, oui, ça roule. Très intense, beaucoup d'intensité, beaucoup d'organisation à préparer. Vous êtes aussi, je pense, soumis à ce genre d'activité quand vous préparez un genre d'événement de ce type-là. Nous, on est moins habitués, on a moins d'organisation, mais on va y arriver et on fait le nécessaire pour y arriver et atteindre notre objectif.
Les deux autres messieurs, un rajout ?
Non.
Non, ils sont calmes.
Vous partagez tout ça ?
On partage.
Pour l'instant, ils suivent.
Oui. Il y a le président qui est là.
Voilà, c'est ça. Donc, il se repose.
C'est le président.
On comprend ça, il se repose sur le président. Allez, vas-y, président, die. Alors, on peut lire sur le site du club que depuis les années 60, tous les clubs avaient petit à petit disparu. Et c'est l'envie, je cite, de 3 ou 4 acharné, qui était de redonner et transmettre à la nouvelle génération la passion pour la Vespa. Emblème et fierté pour tout Italien qui se respecte.
Effectivement, la naissance de la Vespa était vraiment dans les années 40. Dans les années 60, elle a un petit peu disparu. Le Vespa Club Lausanne aussi s'est un peu éteint dans ces périodes-là. On a perdu des informations. On ne trouve pas beaucoup d'informations. Internet n'existait pas. Mm-hmm. Les archives sont difficiles à trouver. Et effectivement, ces 4 acharnés ont décidé de regrouper leur passion et de refonder le Vespa Club Lausanne en 2004. Et depuis, on n'a pas cessé de grandir et de rassembler de plus en plus de passionnés masculins et féminins.
Ah, ça c'est sympa ça, hein. Des filles, des femmes et des dames amoureuses de la Vespa, mais au départ du club c'était vraiment un engouement qui était vraiment fort ou bien c'est venu petit à petit
Alors je pense que c'était quelque chose d'assez de niche, les gens ne connaissaient pas vraiment la Vespa en tant que telle, se sont rassemblés et au fur et à mesure quand on les voit dans la rue, on pose des questions, les gens nous arrêtent, nous posent des questions et commencent à avoir plus d'engouement pour cette Vespa qui esthétiquement est vraiment... quelque chose d'incomparable et d'introuvable ailleurs par rapport à son utilisation et son utilité.
Dès le départ, il y avait un autre président ou tu as été directement le président du départ ?
Non, je suis président que depuis quelques années. Le président fondateur était Rodocindo Adamo, qui faisait partie de ces 4 acharnés avec Didier et Enzo, plus encore une 4e personne qui n'est plus dans le club. Mais eux en sont encore membres du club, actifs et toujours présents. Et sont nos livres d'histoire sur la vie du club.
Ça, c'est important hein, d'avoir l'historique finalement du club. Donc, en effectuant aussi quelques recherches, on peut également lire que les Italiens n'avaient pas encore les moyens pour acheter une voiture. Alors, ils s'en remettaient à la Vespa qui était vite devenue quasiment l'automobile de la famille. Est-ce qu'en étant enfant, vous avez des souvenirs d'histoires racontées par vos parents, les grands-parents, qui relatent ce moyen de transport et un certain nombre de loisirs particuliers ? Peut-être cette question à Giuseppe.
Oui, alors en fait, moi, la première fois que je suis monté sur une Vespa, je pense que j'ai dû avoir 5 ou 6 ans. Donc c'était la Vespa à mon grand-père, c'était le moyen de transport. Donc mon grand-père, il allait travailler avec, il faisait un peu de tour avec, hein, il se baladait avec sa femme, ma grand-mère. Et en fait, c'était le moyen de transport des Italiens, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, vu que le pays devait redémarrer suite à cette guerre. Et puis, la Piaggio avait décidé, au lieu de faire des avions et puis d'hélicoptères, ce qu'ils faisaient auparavant, de construire des moyens de transport pour les Italiens pour aller se déplacer, puis pour aller travailler, puis renaître le pays, on va dire, qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était détruit, quoi. Et puis, moi, le souvenir que j'ai, c'est mon grand-père, il m'a amené à l'école, il me promenait avec, et cette Vespa, je l'ai toujours. C'est moi qui l'ai hérité, donc c'est moi qui l'ai.
Ah, ça c'est un beau, ça c'est un bel héritage, un beau cadeau finalement de quelques années en arrière et puis d'un siècle un peu disparu. Donc tu roules toujours avec cette Vespa ?
Je la roule pas, mais je la bichonne. C'est ma femme. Voilà.
J'espère qu'elle est à l'écoute.
Elle est à l'écoute.
Joseph, elle est de quelle couleur ?
Elle est grise.
Ah, grise. Ok.
Les Vespa, c'est pas comme Ferrari où on les voit toujours rouges, mais on semblerait-il que la couleur d'origine est plutôt le jaune chez Ferrari. Maintenant, on a toujours le rouge, mais est-ce que la Vespa avait une couleur d'origine qui était particulière ?
Non, parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Il y avait des vertes, des rouges, des grises. Mm-hmm. Puis au jour d'aujourd'hui, comme je dis, la Vespa, c'est personnel. Chacun, il a fait à sa façon. Et voilà. qu'il se reflète à l'intérieur de sa Vespa, on va dire.
Il se reflète, ouais, ok.
Donc c'est comme un miroir, donc mm-hmm. Chacun a sa Vespa, il se la fait à sa façon, donc voilà.
À son image.
Oui.
Ouais.
Ok. Pour choisir aussi le fait, c'est quelque chose de... Soit on est un puriste et on veut garder l'esthétique mm-hmm. d'origine, et il y a des personnes qui cherchent cet élément-là, d'autres personnes cherchent aussi à adapter la Vespa à ce qu'ils sont, et il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la Vespa.
Voilà, moderniser un peu, donc c'est-à-dire les limites au niveau de la couleur, au niveau de des accessoires ou bien...
Couleur, accessoires, on restera que sur cette partie-là qui est la partie légale, on va dire comme ça, et adapter aussi à l'ère du temps pour des okay. personnes qui aujourd'hui, le rétrofit commence à arriver aussi, mm-hmm. et c'est une question qui se pose de plus en plus pour préserver ces véhicules qui ont de plus en plus de difficultés à être acceptés sur nos routes.
Mais est-ce que l'on... customise finalement sa Vespa ou est-ce qu'on essaie de rester le plus proche possible des valeurs d'origine parce que c'est là où ça fait plaisir d'être un tout petit peu dans les années 40-50 du début ou est-ce qu'on fait, alors comme tu le disais Daniel, les bases légales de ce qu'on peut faire, est-ce que quand c'est trop customisé finalement c'est plus l'origine?
Tout est ouvert. Il y a des tendances, si on va en Angleterre, il y a les mods où ils ont une quantité de phares devant et qui sont vraiment des modèles totalement différents de ce qu'on a nous. En Italie ou en Suisse, on a plutôt une tendance à préserver l'esthétique d'origine, mais il y a toujours une possibilité de pouvoir la customiser, les couleurs, pas forcément les couleurs d'origine, rajouter des accessoires supplémentaires, la découper un peu, la refaire, toujours en pouvant, puisque les bases légales nous empêchent de faire tout ce qu'on veut, mm-hmm. Ça dépend le pays dans lequel on se trouve. En Suisse, on est un peu plus restrictif, donc du coup, nos modifications sont beaucoup plus discrètes.
Intéressant de rebondir sur les États-Unis ou d'autres pays. Est-ce que vous avez, vous, le Vespa Club de Lausanne, des contacts avec d'autres pays qui sont intéressés, qui ont vu, qui ont découvert que vous aviez un Vespa Club? Vous avez des contacts avec eux?
Alors, pas de contact régulier, c'est pas direct en tant que tel. Il y a des événements internationaux qui sont organisés chaque année et qui se déroulent à différents endroits. Et il y a aussi qui sont organisés par le Père Piaggio et le Vespa World. Et en fait, ils peuvent se faire soit en Europe, soit en Asie, soit aux États-Unis. La difficulté, c'est de voyager entre les océans. C'est très compliqué mm-hmm. de transporter ces
ouais,
véhicules.
Bien sûr.
Mais c'est à ces moments-là qu'on rencontre les clubs d'autres continents.
Mm-hmm. Est-ce que Daniel ou Giuseppe, est-ce que vous avez une Vespa dans votre tête ou dans une image d'une que vous avez vue qui vous a surpris au niveau de la couleur ou celle que vous avez trouvée le plus customisée, le plus originale?
La vôtre?
Déjà la mienne, pour moi, mais toutes les Vespas sont belles. Chaque Vespa a son charme, chaque Vespa a sa beauté, sa particularité. Donc voilà.
Ok, donc la tienne, vas-y, on écoute, on essaie de s'imaginer, on essaie de rêver un petit peu, vas-y.
Je te laisse imaginer.
C'est une couleur spéciale, t'as vraiment une couleur spéciale, effectivement. Il y a quelques accessoires qui sont pas. Qui sont différents et qui la sortent du lot, c'est-à-dire aussi on arrive à la reconnaître quand on la voit passer, on sait que c'est celle de Giuseppe et c'est pas celle de quelqu'un d'autre.
Okay.
Après il y a d'autres modèles qui sont ce qu'on appelle nous les licornes, celles qu'on recherche tous, les modèles qui sont sortis au tout début avec un phare sur le pare-boue, ça s'appelle la Faro Basso. Il y a d'autres modèles qui sont sortis beaucoup plus tard qui sont aussi recherchés, des modèles qui s'appellent la 180 SS qui mm-hmm. sont des modèles un peu plus sportifs, et après la Rallye qui arrive en 200 cm3, et ça ce sont des modèles qui sont très spéciaux, très spécifiques et que tout le monde recherche.
Alors Giuseppe montre la photo de sa Vespa sur son Intel. C'est vrai qu'elle
est magnifique. Pas
mal, quand même. Moi, elle fait presque mal aux yeux.
Il la bichonne,
ouais. Ouais, magnifique.
Et puis j'imagine aussi qu'au niveau du prix, donc les Vespa, je ne sais pas si je prends peut-être un petit peu d'avance, mais du coup, plus elle est recherchée, plus elle est. Alors, j'ai une petite fourchette comme ça, on peut avoir une petite fourchette de prix.
Il y a certains modèles, donc les tout premiers modèles donc, qui sont sortis dans les années 45-46, enfin plutôt 46, sont des modèles qui aujourd'hui se revendent à peu près dans l'état où elles sont à plus de 100 000 euros.
Ah, quand même. Hein.
Et après, il y a d'autres modèles qui sont plus difficiles, mais d'autres modèles qu'on cherche, comme des Vespa Rally ou des autres modèles, sont entre 8, 10, 12 000 francs. Mmh. Tout dépend l'état, tout quand dépend même. Leur provenance, tout dépend la couleur aussi. Il y a sorti certains éléments. Et la cylindrée, il y a des cylindrées qui sont plus difficiles à trouver. Mmh. Parce que à chaque Vespa devait aussi s'adapter à la législation de chaque pays. Donc on a des choses très, très particulières qui n'existent pas en Suisse, qui existent dans d'autres pays. Simplement pour pouvoir éviter d'avoir un permis pour pouvoir la conduire. Donc on descendait la cylindrée ou dans certains cas, par exemple comme en France, on rajoutait des pédales pour en faire une sorte de vélomoteur. Les pédales ne servaient à rien du tout, juste législatif. C'est impossible de pédaler avec ça.
Excellent. Ah oui, alors nous, bien sûr, on sait très bien, Sylvain et moi, on n'a pas besoin d'avoir la réponse à cette question, mais quand même, nos auditrices et nos auditeurs qui ne le sauraient pas, d'où vient le nom Vespa ? Alexandre ?
Alors, il y a eu plusieurs avis, hein, ça c'est comme tout.
Reviens, merci.
J'y arrive, merci. Alors en fait, il y a plusieurs avis. À la base, dans les années 43, donc Enrico Piaggio, il a entendu, ils ont fabriqué le premier modèle, hein, la MP5. La MP5. Et puis, il a assimilé en fait le bruit de cette Vespa à une guêpe. Donc la traduction en italien, Vespa, une guêpe. Il a trouvé que ça sonnait bien. Et puis, c'est resté là. Et puis, avec les années, ils ont sorti en 46 la Paperino. Donc, il y a toute une histoire. C'est la Vespa 98. Après, la Vespa est née avec l'emprise d'Enrico Piaggio. Assez comment.
L'objectif était aussi de créer un véhicule simple d'entretien, esthétiquement beau. Abordable et qui permettait aussi à n'importe qui de le conduire, y compris la gente féminine en robe. Parce qu'en fait, ce principe de ne pas enfourcher le véhicule rendait l'accès pour s'asseoir dessus beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on n'a pas de réservoir entre nos jambes. On s'assied directement, on peut poser des sacs. Si on regarde quelques photos actuellement, dans certains pays asiatiques aussi, elles servent de transport et c'est quelque chose qui est incroyable d'arriver à voir. Comment ils arrivent à stocker autant
tout ce qu'ils arrivent à transporter.
Et je crois, lors de la préparation de cette émission, on a une anecdote, et je crois que c'est Giuseppe qui nous avait confié cette anecdote, qui aurait contribué finalement à donner ce nom à la Vespa, soit à l'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nom et puis l'origine?
Alors, comme il a dit Alex, il y a plusieurs variantes. Voilà, merci Daniel. Alors, la variante que moi je connais, c'était Enrico Piaggio, il avait connu une dame, que son mari était parti à la guerre, il n'est plus revenu, donc cette dame était restée toute seule. Et puis ensuite, quand il y a le véhicule, donc la Vespa 98 qui a été créée, ils ont été se promener ensemble et elle n'avait pas de nom encore de Vespa. Et c'est cette dame qui lui a dit, on dirait une Vespa. Suite au modèle, à la forme qu'il avait et puis au bruit qu'il faisait. Donc voilà. Moi, je vais donner
cette version-là.
Cette version-là,
ouais. Tu gardes cette version-là, toi.
Mm-hmm. C'est une belle version.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec...
Très romantique, ça cadre avec le véhicule.
Mais la Vespa est hyper romantique. Ah oui. Ça, faut
tout
le dire quand
rondeur.
Même.
Ah tout ouais. En rondeur. Ah ouais. Des belles formes, tendues. Et puis c'est passe-partout. C'est comme l'amour, c'est passe-partout.
Merci Alex.
Il faut aussi préciser que c'est un des rares véhicules qui est exposé au musée d'art moderne à New York, au MoMA.
D'accord.
Okay. Un des modèles exposés là-bas. Et je pense pas que beaucoup de véhicules aujourd'hui peuvent prétendre à... Vu l'esthétique, c'est vraiment ce qui amène ça. Cette esthétique-là, elle est vraiment... Le dessin, le trait est incroyable.
C'est vraiment une histoire très particulière qui est très attachante par rapport à la Vespa. Et on ne trouve pas ça dans beaucoup de véhicules ou forcément les motos. Là, il y a vraiment une histoire autour qui est vraiment intéressante. Et una domanda per Daniel, il presidente. Devo parlare italiano per far parte del club?
Non, c'è bisogno, non, il n'y a pas besoin.
Alors pour les non-initiés comme moi, j'ai dû traduire quand même. Eh bien, pour faire partie du club, est-ce que la pratique de la langue italienne est incontournable? Visiblement pas.
Non, absolument pas. Tout le monde est accepté. C'est justement cette passion-là qui est intéressante. Aujourd'hui, dans le club, on rassemble des personnes de toute nationalité. pour autant qu'ils aient la même passion que nous, qui est la Vespa, nationalité, classe sociale, il n'y a aucune différence, on se mélange et c'est vraiment ça qui est vraiment très intéressant dans le club, c'est qu'on arrive à partager des personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément comme ça facilement en dehors dans notre vie de tous les jours et arriver à rassembler des avocats, peut-être des médecins, des informaticiens comme moi, avec des mécaniciens ou avec d'autres personnes et là on arrive à trouver un point central de discussion où on partage quelque chose et il n'y a que ça qui compte, le reste, ce n'est pas très très grave.
On est d'accord, c'est assez rassembleur en définitive.
Oui. Peut-être une question, peut-être vous pouvez tous répondre, hein, mais peut-être pour Alexandre, est-ce qu'au sein du club, est-ce que je dois obligatoirement être propriétaire d'une Vespa ou est-ce que je peux être membre sympathisant en participant à des activités sans forcément rouler obligatoirement en deux roues?
Alors, ben, les membres actuels, ils ont plus ou moins tous une Vespa. Donc, le but principal, c'est de pouvoir se faire des balades, on est bien d'accord. Mais on est ouvert à tous et on a des sympathisants qui paient leurs cotisations, qui ne sont pas forcément là aux sorties ou qui ont une Vespa. Donc, on est ouvert à tout le monde qui ont la passion italienne, on va dire ça, entre guillemets. Parce qu'on a eu aussi des gens qui faisaient partie du club et puis qui avaient une 4500. Donc voilà, en gros, non, on est ouvert à tout le monde. S'ils veulent payer leurs cotisations et pas venir, on est aussi ouvert. Mais c'est pas le but. Voilà.
N'ayant pas de Vespa, en tout cas actuellement, hein, peut-être, c'est peut-être une envie peut-être de futur retraité dans quelques années, mais si je souhaite faire partie du club, est-ce que vous avez des Vespa à vendre, à louer, à prêter? Comment ça se passe au sein du club si j'ai envie de venir, aller voir un peu comment ça se passe?
Tu veux prendre
Alors, si tu as envie de faire un tour, bah, on est tout seul, bah, tu peux venir derrière nous. Donc, on peut te promener avec notre Vespa. Si tu veux t'en acheter une, j'en ai à vendre. Si jamais. J'en ai pas mal. Et on est ouvert. Donc, tu peux très bien venir et puis on peut te faire des balades avec nos Vespa personnels. Mais toujours derrière. Moi, je ne la laisse pas conduire, je suis jaloux de ma Vespa.
Ouais, je comprends. On ne laisse pas son amoureuse à n'importe qui.
Non, non.
Ouais, c'est ça.
Le marché de la vente existe. Hein, donc tout est disponible sur Anibis, sur tous les sites en Suisse. Il y a aussi dans les sites à l'étranger. Il y a beaucoup de gens qui se fournissent à l'étranger, mais il faut faire très attention, bien suivre toute la partie législative. Il y a des règles d'importation qu'il faut suivre. Il y a probablement, pour éviter de se poser problème au moment de l'importation, au passage à la douane, ça peut être compliqué, avec certains modèles qui ne sont pas homologués en Suisse, je le précise.
Au niveau de la cylindrée
Ça peut être un modèle particulier, ça peut être aussi la taille des roues, il y a beaucoup de choses qui sont particulières. On peut arriver à homologuer pas mal de choses, mais tout n'est pas possible aujourd'hui.
La Suisse est plus restrictive, quand même.
Moi, je dirais que c'est un des pays les plus restrictifs. Oui.
Et surtout pour le deux temps actuellement. Donc, il y a des émissions de gaz aussi qui font partie pour l'écologie. Alors, certains modèles en deux temps, bah, effectivement, polluent un peu plus que du modèle 4 temps en Euro 4. Quoi. Donc, voilà, ça limite un peu certains véhicules. En tout cas, importé. Hein.
Exactement.
On a parlé avant un peu des statuts, de l'ambiance, de l'envie d'accueillir tout le monde, de vivre un petit peu sous cet œil et vie italienne autour de la Vespa. Mais est-ce que vous avez quand même, dans le cadre du club, des statuts particuliers que vous exigez et qu'il ne faut pas déroger pour finalement que tout se passe dans les meilleures conditions?
Alors, bien sûr, ça, c'est le respect de la personne en général. On se respecte tous. Tout le monde a un droit de regard sur ce qui se passe dans le club. On paye des cotisations, donc chacun a le droit de s'exprimer dans le respect toujours. Il y a un comité qui est là, qui existe, qui permet de porter la voix des membres dans la partie plus administrative, mais les décisions ne sont pas unanimes et unilatérales par rapport au comité. C'est lors d'assemblées, on fait nos assemblées mensuelles aussi, on a des assemblées mensuelles où tout le monde peut se prononcer, demander certaines choses. Les seules vraiment réelles conditions, c'est un respect des personnes, le respect du véhicule aussi et de nos traditions, ces traditions qui existent, qui se perpétuent par ce véhicule.
Le bien vivre ensemble dans le club pour avoir du plaisir à se retrouver, à rouler en Vespa.
Exactement, et la Dolce Vita.
Et la Dolce Vita. Ah, peut-être pour Alexandre ou peut-être Giuseppe, quels sont, alors, hormis cette année, puisqu'on a ces festivités particulières dont on va parler après la première pause musicale, mais juste avant, quelles sont les activités que vous menez tout au long de l'année, des sorties, est-ce que vous, combien de fois vous vous voyez, comment ça se passe?
Alors, bah, toutes ces sorties, elles sont discutées ensemble. On essaie d'avoir une personne qui organise durant les belles périodes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Janvier, février, elles sont au chaud, hein, comme nous. Hein, compliqué aussi de pouvoir rouler. On commence les premières sorties bah, début avril. On fait le tour des ronds-points sur Lausanne. Ça, c'est des traditions. Mais après, on essaie d'avoir nos membres, ils sont actifs. Ils organisent une sortie ou deux par mois durant l'été. Donc, toujours des belles balades sympathiques. On roule justement au Vespa pour aussi avoir une vitesse qui est adaptée pour tout le monde. Et puis, entrecoupé, il y a des grandes manifestations, hein, Daniel. On peut dire comme l'Euro Vespa.
Il y a les Vespa World Days, donc c'est ces rassemblements internationaux qui existent, et il y en a de plus en plus qui s'organisent. Donc maintenant, il y a le Vespa World Days qui se fait au mois de mai. Le prochain aura lieu à Gijón, en Espagne. Il y a les European Vespisti Week qui a lieu en Serbie, Novi Sad. Et il y a encore des événements aussi internationaux en Italie, auxquels on va participer à Olia dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et en plus de ça, il y a encore des assemblées mensuelles qu'on organise, même lorsqu'on est, on peut pas rouler en Vespa, on les organise et on se rassemble. C'est toujours le prétexte d'être ensemble et de partager quelque chose à manger. La partie administrative dure très 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 peu de temps, entre 5 et 15 minutes maximum. Le reste de la soirée, c'est partager des anecdotes, rigoler ensemble. Et puis partager des bons moments ensemble. C'est surtout ça. Et on voit que les gens adhèrent à ça.
C'est vraiment la Dolce Vita.
J'ai eu l'occasion de voir quelques images d'une sortie 2024, je crois. Vous avez fait quand même, en quelques mots, pouvez-vous dire, de nombreux kilomètres en Vespa ?
Alors oui, alors on était une petite équipe. On est parti dans les Pouilles, bel endroit, on ne connaissait pas tous. Hein.
Chez Giuseppe,
exactement, dans son village. Et puis on a fait près de 1200 km, c'est ça ?
1200 km.
Ah oui, quand même. Hein.
Sur des routes pas forcément toujours extraordinairement...
C'est pas des routes suisses, donc il y avait plus de trous que par lisses.
Elles ont leur charme.
Voilà, et sinon bah, j'ai fait découvrir aussi la région des Pouilles à mes copains de Vespa, et ils ont bien aimé, donc on va retourner au mois de juin, et ils ont pris tous du poids. Hein,
si jamais. Ça va rouler moins vite
pour le retour.
Surtout un qui est autour de cet étage.
On arrive à la première pause musicale.
Surtout la pub.
Nuna Pop 50 spécial. Pourquoi ce titre ?
Alors c'est le,
non,
c'est le...
Pardon, Sylvain, excuse-moi. Oui, parce que si, il existe, mais c'est la pub. Désolé, les gars, c'est l'heure. Mais oui.
Mais moi, je zappe la pub.
Ça passe tellement
alors,
vite.
Pas de problème. La pub, et puis ensuite Nuna Pop.
Voilà.
Et puis on en cause juste après pourquoi ?
Volontiers.
Bière du Boxer, brassée avec passion à Yverdon.
De la viande de gibier sauvage à l'année, c'est chez Festi Sanglier à Chavornay. Une vaste gamme de choix disponible à la commande. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Festi Sanglier ou prenez directement contact avec nous au 078 634 86 32.
Rénovation ou construction neuve, votre charpentier, Laurent Books, réalise tous vos projets. Charpente, ferblanterie, plafond tendu, pose de véranda et fenêtres. Pour plus d'informations, contactez-nous au 024 454 37 21 ou par mail bl.construc@bluein.ch.
Faites la fête et rentrez en toute sécurité avec Travis.
La ligne Yverdon Sainte-Croix vous accompagne dans tous vos déplacements.
Notre personnel se tient également à votre disposition tous les jours à la gare de Sainte-Croix.
Parmi les services proposés, notre guichet s'occupe d'organiser vos voyages en Suisse et à l'étranger.
Vous pouvez également effectuer du change et déposer vos colis DHL.
Travis, transporte et connecte.
« Des anecdotes drôles et insolites? On vous révèle tout, sans répit. Jim Morrison avait-il un esprit libertaire? Janis Joplin, cette icône du rock, aurait-elle pu être encore plus grande? Ça vous intéresse? Alors rendez-vous de 12h à 13h avec Christelle et vous en apprendrez des bonnes. I feel unhappy.
Viens faire la fête à la soirée carnavalesque le samedi dès 21h, suivi par le DJ set All Style de Jerem.
Girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. A marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza.
Nous sommes de retour dans l'émission Stammtisch et nous accueillons ce soir le Vespa Club de Lausanne qui fête ses 20 ans cette année. Et nous avons autour de la table avec nous Daniel, président du Vespa Club de Lausanne, Giuseppe, membre du club, le docteur aux mécaniques du Vespa et Alexandre Amokaftif au sein du club.
Je rajoute quelque chose parce que ça a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Giuseppe est désormais vice-président du club.
Ah, bravo.
Une merci.
Ah, belle promotion. Alors, on pourra fêter après l'émission.
Oui,
on sera obligé de fêter ça avec plaisir.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Encore un argument de plus.
Lula Pop, 50, pourquoi cette chanson?
Je prends une partie Luna Pop, c'est vraiment une chanson qui a été écrite dans les années 2000, sur tout début des années 2000, sans dire de bêtises. Et c'est vraiment, ça parle de la Vespa en tant que telle, ça parle d'un modèle très spécifique, un modèle 50 cm3 qui est très répandu en Italie. Et c'est devenu un peu l'hymne des rassemblements Vespa, de toute personne qui aime la Vespa. C'est vraiment quelque chose qu'on entend à peu près tout le temps et qui est très entraînant et qui vraiment amène et explique un petit peu tout ça. C'est vraiment... on peut dire que c'est un hymne de la Vespa. Il n'y avait rien d'autre avant, pas grand chose. Elle était dans les films, les différents films qu'on a cités tout à l'heure. Et maintenant, elle est en musique aussi.
Un lien, une reconnaissance.
Oui.
Avant que Sylvaine entame vraiment les questions sur les activités de ces festivités, puisque vous allez souffler 20 bougies au mois de juin, je voulais quand même juste savoir, et on voulait savoir, Giuseppe, comment ça se passe en termes de logistique mécanique quand vous partez faire ces nombreux kilomètres, notamment l'Italie. Gros boulot derrière.
Alors, en principe, on part avec nos Vespa, qu'elles sont en état.
Préparées,
maquillées.
Non.
Quand on sort la Suisse, on les maquille. Ça, il faut dire. Tout le monde maquille les Vespa.
C'est-à-dire.
On change le carbu pour l'échappement, on fait un peu plus de bruit. Non, mais quand on fait des grosses sorties comme ça, en fait, on prend des outils par rapport à un autre véhicule. Si jamais il arrive quoi que ce soit, donc une petite panne pour dépanner. Et comme c'était l'année passée, on est parti au sud d'Italie. Là, j'ai pris tout l'arsenal que j'avais comme outillage, parce que vu qu'on est à 1400 km, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut arriver, et puis il faut être prêt. Et on a eu des grosses casses, et puis heureusement que j'avais l'outillage, j'ai dû faire un moteur sur place, par terre, des ECN Vespa, et puis c'est reparti. Le lendemain matin, on était prêt, et puis on continue à rouler. Donc il faut juste se préparer le matériel par rapport à son type de véhicule.
Alors, Giuseppe, tu es l'homme qu'il faut avoir en cas de sortie Vespa.
Pour la Vespa,
effectivement, il y a plusieurs dans le club qui ont des capacités très, très élevées.
Il nous coûte cher quand même. Il nous coûte cher. Ouais.
Alors ça, j'imagine.
Il faut soudoyer un petit peu.
Si on parle de mécanique, ça va être mon problème si un jour j'acquiers une Vespa. Je pense que je viendrai te trouver, si c'est le cas, Giuseppe.
Mais une Vespa tombe jamais en panne si elle est d'origine.
Sérieux? Ah, ça c'est une boutade ou c'est sérieux? Allez, vas-y, sérieux. Développe. Sérieux?
Oui, c'est très rare qu'une Vespa tombe en panne. C'est un véhicule qui était conçu pour que ça dure longtemps, fiable et tout ça. Après, il y a des modèles, c'est vrai que c'est moins fiable que d'autres.
Okay.
Mais en principe, une Vespa, c'est très très fiable. Il faut la soigner, tout simplement.
Et alors, c'est pas comme l'informatique où le problème se situe souvent entre l'écran et la chaise?
Non.
D'accord, ça rassure.
Ça, c'était pour Daniel ou Gaëch?
C'est pour moi.
Oui, alors, en parlant justement de ce futur anniversaire qui va bientôt arriver, qui est tout de suite là, c'est au mois de...
D'août,
on a dit.
J'ai dit juin, mais c'est le
30 août. C'est bien ce qui me semblait.
D'intervenir.
Le 30 août, c'est bien, parce qu'après, c'est à la rentrée, en fait.
Exactement.
Hein. Ces festivités, elles vont se dérouler comment, quand, où? On veut tout savoir.
Alors, tout est organisé pour que ça se déroule à Lausanne. On est le Vespa Club Lausanne, donc on va aussi fêter le fait qu'on soit fiers de la ville de Lausanne, entre autres. Et ça se déroulera à l'espace Amaretto, qui se trouve dans les anciennes halles de la gare de Sébeillon, pour ceux qui connaissent. Après, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment au sud de Lausanne, qui nous permettra, et qui a une, en fait, c'est une halle qui nous permet d'exposer des Vespa, d'accueillir les clubs qui vont venir. Donc il y aura pas mal de clubs suisses, et très certainement des clubs un peu étrangers aux pays limitrophes que l'on a, Italie, France, et probablement un peu d'Allemagne, à voir les personnes qui seront disponibles ce jour-là. Et le but de la journée, c'est vraiment rassembler tous ces gens-là, partager un bon moment, avoir quelques activités qui seront des balades qui sont organisées par nos membres, donc tout accompagné évidemment. On va pas laisser les personnes toutes seules se balader et faire voir et faire contempler notre beau paysage qu'on a dans la région lausannoise et dans ses alentours, et pouvoir se rencontrer et discuter avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Il y aura aussi de la nourriture italienne évidemment. Il y a de la restauration. C'est le plus important, je pense que c'est ça. C'est la restauration. Il y aura aussi de quoi boire et se sustenter. Tout sera disponible sur place.
Alors j'imagine bien sûr que ce sera des préparations italiennes, la nourriture italienne plutôt, ou alors est-ce que ça va être panaché un peu plus ?
Alors non, ça sera, dans ce cas actuellement, ça sera que de la nourriture italienne, très 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 typique. Pour l'instant, c'est pizza et lasagne.
C'est parfait.
Donc, ce qui, je pense, pourra contenter tous les gastronomes qui existent. Et ce sont deux spécialités importantes de l'Italie.
Bien sûr. Ok.
Ça donne envie en tout cas, hein. Pour ceux qui aiment, surtout au mois d'août, pas au mois de juin comme je l'ai dit avant, sous le soleil.
Mais moi ce que j'aime bien en fait, c'est que tu dis le mois de juin, mais il n'y a personne qui reprend en fait.
J'ai pas osé.
Tu vois un petit peu,
Sylvain. Le maître de cérémonie, je l'ai laissé aller jusqu'au bout, puis après on aura abordé le sujet.
Ouais, j'aime bien Daniel, il aurait été parlé.
J'aurais été sévèrement sanctionné à l'heure de l'apéro après, je pense. Alors, tu as bien fait, Daniel, de me reprendre. Effectivement, je ne sais pas pourquoi j'avais noté le mois de juin, mais autant pour moi, alors au plaisir de se retrouver éventuellement au mois d'août. Alors, bien
donc,
sûr.
Vous attendez combien de personnes à peu près, hein? Quelle est votre.
Alors, les estimations qu'on a, c'est qu'en fait, il y aura des personnes qui seront invitées, donc les clubs, donc ils devront s'inscrire. On attend entre 100 et 150 personnes qui devraient venir sur place. Et après, tous les sympathisants sont évidemment bien accueillis, seront accueillis sans forcément s'inscrire. Ils pourront arriver sur place. Il y a cet espace de restauration et de boissons qui permettront aussi à ces personnes d'y participer. On ne les emmènera pas forcément faire une balade directement sur les Vespa. C'est toujours des questions d'assurance et de légalité pour ces événements-là. Mais par contre, vous pourrez venir admirer plein de véhicules, tous différents, d'époques différentes, de technologies différentes, parce qu'on part vraiment d'anciennes Vespa jusqu'à des Vespa très très modernes. Il n'y a pas encore grand monde dans le club qui a une Vespa électrique, même si elle existe.
Elle existe déjà.
Elle existe déjà, oui, ça fait un petit moment qu'elle est là.
Ça fait un peu mal,
oui,
ça.
Là,
ça fait un petit peu mal.
Il faut s'adapter à la situation actuelle.
Alors, je crois qu'il y a certains moments où on s'adapte, ou moyennement, on dirait à Giuseppe. Ça a l'air de te convaincre, cette Vespa électrique.
Pas du tout. C'est pas une Vespa.
C'est pas une Vespa ?
Non.
Ouais, c'est clair.
Non.
Oui, c'est vrai.
Déjà au niveau du bruit, est-ce que.
Ça doit fumer, ça doit faire du bruit, ça doit tomber en panne, il y a de l'huile qui doit couler par terre. Donc, c'est une Vespa. Si c'est électrique, c'est pas une Vespa.
Mais il faut faire vivre Piaggio encore aujourd'hui. Il faut qu'il puisse survivre dans cet environnement et la société d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les villes se ferment de plus en plus. Et il devient de plus en plus difficile de circuler avec des véhicules anciens, s'ils ne sont pas homologués ou expertisés vétérans.
Parce qu'il n'y aurait pas du tout une autre manière de rendre la Vespa un petit peu moins verte. Enfin, j'ose pas parler parce que Giuseppe me regarde avec des yeux, il fusille. Oh, je ne veux pas de Vespa.
Je vais essayer d'inventer un pot d'échappement
qui aspire tout,
qui pollue tout. Pas. Non, je sais pas. C'est malheureusement, c'est on va vers l'électrique, donc on n'aura pas le choix.
C'est une question d'adaptation, mais pour l'instant,
on essaie d'en profiter.
Il y a encore quelques belles années.
Exactement.
Parce qu'en même temps, il y a des clubs de Vespa un petit peu partout, en Suisse romande ou en Suisse allemande.
Très répandu en Suisse allemande.
Okay.
En Suisse romande également, il y a plusieurs clubs qui sont tout près de chez nous, à la côte. Il y en a un nouveau qui vient de s'ouvrir à Montreux. Genève, il y en a plusieurs. Mais le gros des membres de clubs de Vespa en Suisse sont tous en Suisse allemande. Le plus gros club en Suisse est le Vespa Club de Zurich. Et je peux fièrement annoncer aussi que le plus grand club suisse romand est le Vespa Club de Lausanne.
Ah ouais.
Avec ses 72 membres.
Ouais, quand même.
Et grâce aux pirates aussi, parce qu'il y a un Vespa Club qui s'appelle les Pirates, qui sont adjoints aussi au Vespa Club de Lausanne.
Exact.
Ah, vous avez fusionné.
On a fusionné.
Ils ont été absorbés.
Ils ont été absorbés.
Mais c'était un club qui était complètement différent.
Non, en fait, on était un groupe d'amis. On était une dizaine, et puis mais c'est pas vraiment un club officiel, c'est un truc plus entre amis,
potes,
voilà. Et puis sinon on fait partie du Vespa Club Lausanne, mais on représente quand même les pirates, on est connus.
Effectivement, parce que pour participer à ces événements internationaux, il faut faire partie d'un club local qui lui est affilié à cette organisation fêtière qui est le Vespa Club Suisse. Donc tous les membres du Vespa Club Lausanne sont affiliés au Vespa Club Suisse qui nous donne les accès à ces événements internationaux. Sans ça, on ne peut pas y participer, malheureusement.
Si je résume ce qui a été dit avant, ça veut dire que cet anniversaire au mois d'août est ouvert à tout un chacun. c'est pas seulement pour finalement les gens qui ont une connaissance de la mécanique, seulement les amoureux de la Vespa, mais de venir passer un bon moment avec des belles machines, de faire une balade, de boire un bon verre, de manger finalement de la cuisine italienne, bon soleil,
profiter de l'ambiance italienne,
exactement.
Profiter de l'ambiance italienne.
Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et on a parlé aussi avant du prix ou de certaines Vespa par rapport à ce qu'on pouvait acheter sur le marché, qui était dans des prix corrects et puis des prix qui étaient vraiment plus importants en fonction de l'année et de la Vespa. Alexandre. Est-ce que pour cet anniversaire-là, est-ce que vous cherchez des bénévoles pour œuvrer au sein de cette journée ?
Alors bien sûr, tout bénévole peut passer par notre site, appeler notre président. De toute façon, tous les membres actuels, je pense qu'ils sont sollicités. Hein, donc non, je pense que ça va être une super belle journée. Pour l'instant, elle est encore en préparation. On recherche toujours...
Des sponsors
parce que exactement. Là je pense que c'est quand même aussi le nerf de la guerre à l'heure d'aujourd'hui pour organiser une manifestation, donc là je pense que Daniel
Alors, tout à fait, donc actuellement on est en pleine première étape de recherche de sponsors qui auront la possibilité de d'être sur place ou d'apparaître aussi sur nos différents posts de réseaux sociaux ou sur nos flyers qu'on va distribuer dans les invitations. Donc il y a plusieurs possibilités de niveau de sponsoring. On accepte absolument tout le monde et le but c'est que cette journée se passe le mieux possible et qu'on puisse tous être heureux et partager un très très bon moment ensemble.
En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis moi, si je suis là au mois d'août, je me ferai certainement le plaisir de venir vous trouver. En tout cas,
vous
ne serait-ce que pour boire un jeu,
manger
quelque chose avec plaisir. J'ai envie. Alors, je vous pose la question. On vous pose la question à tous les trois. En entendant un certain nombre d'organisateurs de manifestations, surtout sportives ou de loisirs liés au sport mécanique ou pour le moins avec la présence de véhicules, la tendance allant avec réserve pour certains vers l'électrique, l'hybride, on en causait justement avant, vont clairement vers de la mobilité douce. Que pourriez-vous dire à ceux qui ne partagent pas votre passion et qui luttent contre la pollution, notamment celle de la pollution du bruit, de la luminosité, qui pourrait s'opposer à la tenue de ces types d'événements, parce qu'il y en a. Bien que le signe de la fête soit vraiment sous cette fête italienne et de la Vespa, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne partagent pas cette envie de faire des loisirs avec du sport mécanique, pas du sport mais de loisirs mécaniques en tout cas?
Alors, il faut rester ouvert, comme nous sommes ouverts à leur demande ou ainsi de suite. Et on essaie de préserver un patrimoine. Et ça pas uniquement un patrimoine italien, parce que la Vespa a été aussi très très diffusée en Suisse, très très tôt dans les années 50 également. Donc on essaie de préserver un patrimoine qui existe et l'exhiber et de le présenter, de l'exposer pour que cette connaissance ne se perde pas. Il n'y a pas que des... Alors je vais pas être, sans être trop restrictif, il n'y a pas que des vélos électriques, il y avait quelque chose qui existait avant. Pour arriver à cette situation aujourd'hui, avec la technologie là, il y a une certaine transition et connaître son histoire permet de comprendre le futur.
Juste.
On parle de la Suisse. Évidemment avec le Vespa Club de Lausanne et puis d'autres clubs qui sont suisses alémaniques, mais est-ce qu'en Italie vraiment il y a un engouement qui est resté vraiment important, Alexandre, en Italie aussi?
Alors en Italie effectivement c'est toujours le pays de la Vespa, on y va déjà on y va le week-end prochain parce qu'il y a une des plus grandes manifestations au niveau du marché de pièces, hein. Ça s'appelle le Mostro Scam de Dinovegro, donc on voit beaucoup de passionnés de Vespa. Dans l'Italie, il reste vraiment, je pense, le pays. C'est l'année passée, pour les 140 ans de Piaggio, l'Euro Vespa s'est fait, en fait, à Pontedera, donc, où il y avait l'usine. Donc, on voit que l'Italie, il y a un gros marché au niveau des pièces, au niveau des clubs. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de clubs, hein, Daniel, c'est ça. Hein.
Tout à fait. Donc, plus de membres. Il y a aussi un élément important, c'est que être inscrit à un club italien permet aussi d'obtenir une sorte de d'expertise vétéran qui autorise ces véhicules historiques à rouler sur les routes italiennes. Parce que mine de rien, certaines grandes villes sont beaucoup plus restrictives dans l'utilisation et la possibilité d'utiliser ces véhicules anciens qui ne sont pas catalysés ou Euro 27, Euro 55 et ainsi de suite.
Une question dans ces clubs, est-ce que les jeunes, indépendamment du prix d'un de ces véhicules, est-ce que les jeunes s'intéressent et sont présents dans les clubs ou c'est un peu plus compliqué ?
Si je prends l'exemple du Vespa Club Lausanne, je ne veux pas dire qu'il est représentatif de tous les clubs qui existent. La tranche d'âge est plus de 30 ans, je pense. On n'a pas beaucoup de jeunes. Par contre, la proportion de gens de féminines qui nous rejoint et qui partagent cette passion-là est super intéressante et vraiment fait chaud au cœur parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas qu'un environnement masculin.
Merci beaucoup. On va, je crois, finir sur le deuxième ou sur la musique de fin.
Oui, on va se quitter là. On est obligé de prendre congé maintenant.
Nous sommes désolés de prendre congé là maintenant. C'était génial. Ça passe tellement vite. En tout cas, merci beaucoup et on vous souhaite de tout cœur une très très belle journée.
Ben vous êtes invités, Sylvain et Sylvaine. Oui. On vous attend. Fin août,
avec plaisir.
Et je vous laisse faire un tour avec ma Vespa.
Ah, yeah!
Là, on avance un tout petit peu.
Paroles.
On vous rappelle bien entendu rapidement que notre parrain est l'entreprise Beauvais Électricité à Sainte-Croix, qu'on remercie chaleureusement. Merci à nos trois invités pour s'être déplacés à Sainte-Croix et puis d'avoir participé à cette émission de Radio Carnaval. N'oubliez pas, demain, 19h-20h, la pièce radiophonique partie 1 en direct par des animateurs de la radio. Et puis avant de nous quitter, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis surtout, cette émission était dédiée à Daniel Huguenin, dit Duduche, pour les intimes, ancien animateur et camarade de la radio, qui nous a quittés à la mi-janvier. Nous lui adressons nos douces pensées ainsi qu'à sa famille. Salut à tous.
Merci. Bye bye.
Merci beaucoup.
Merci. T'as mené la barre.
vous est offerte par le garage Balcon du Jura, votre nouvelle agence Suzuki à Saint-Croix.
Il est 20h sur Radio Carnaval. Mais la soirée ne fait que